Seigneur Jésus, nous t'aimons. Oh, sois réel pour nous, Seigneur. Merci, tu es la parole vivante de Dieu. Maintenant, nous allons prendre le message de ce soir. Le titre du message, c'est Avoir une valeur dispensationnelle pour Dieu. Et en prenant ce message, nous voulons nous encourager. Si vous êtes seul ou avec quelqu'un, prenez du temps pour tourner le cœur au Seigneur, et prier au Seigneur, lui demander qu'il nous parle encore ce soir. Oh, merci Seigneur, c'est le jour du Seigneur. Nous aimerons te donner notre être, Seigneur, nous donner à nouveau à toi, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ton dessein, Seigneur. Oh, nous voulons voir ton dessein avancer. Sois avec nous ce matin. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs. Je voudrais dire bienvenue à la ville de Denton, au Texas. Dans un sens, j'aimerais oublier que cette réunion est diffusée en dehors de cette salle. Donc, si vous le voulez, j'aimerais me focaliser sur vous. Et également sur vous qui nous visionnez, qui nous écoutez, cela me permettra de rester concentré sur le fardeau. Nous avons une portion très merveilleuse et je suis plein de ressentis au sujet de cette parole. Que le Seigneur soit avec nous et que le Seigneur nous permette d'avancer avec lui. Je pense que vous êtes réjouis jusqu'ici de cette formation estudiantine consacrée sur Ezra, sur Néhémie et un peu sur âgés. Beaucoup de chrétiens passent trop de temps sur la période, le début de l'histoire des Israélites, Genèse, Exode. Il y a même des films consacrés à ces passages, à ces chapitres de la parole, surtout sur Exode. Mais cela concerne beaucoup plus l'histoire ancienne des Israélites. Mais je ne sais pas s'il y en a, mais je n'ai jamais vu un film consacré à l'histoire des Israélites juste avant la venue de Christ. Mais c'est de ça que nous parlons durant toute cette semaine. Frères ont commencé dans le premier message à nous montrer un peu l'histoire des Israélites et il nous a montré leurs conditions à cause de leur dégradation, de leur infidélité envers Dieu, à cause de leur éloignement constant. Le Seigneur les a avertis en leur disant, je vous éloignerai, je vous sortirai, chasserai de ce terrain et vous, de ce pays, pardon, vous perdrez ce que vous avez gagné. Et il a permis que son peuple soit emporté à Babylone pour 70 ans, 70 longues années. Et nous voyons cela dans le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel également. Ce sont des livres fascinants. Surtout pour la jeunesse. La première fois où j'ai lu la Bible, j'étais au second cycle du lycée. C'est une chose merveilleuse de lire l'histoire vivante des Israélites et même de la comprendre dans le sens chronologique. Lorsque vous rassemblez tout cela, cela vous donne une merveilleuse révélation. Nous parcourons donc aujourd'hui la fin de l'histoire des Israélites juste avant la venue, la première venue du Seigneur. C'est dans ce contexte que se clôture l'Ancien Testament. Pendant la semaine, nous avons vu qu'il est nécessaire d'être purifié, mais avant cela, nous avons compris que le recouvrement du peuple de Dieu commence par notre esprit. Alléluia. Il commence par notre esprit. Nous devons nous exercer et être stimulés dans notre esprit. Et bien sûr, il y a également notre cœur. Nous en parlerons. Dans Néhémie, bien sûr, Néhémie parle de notre cœur et de notre esprit. Mais dans cette question de la purification, nous avons vu que c'est une nécessité. Si nous devons retourner pour rebâtir la maison de Dieu et la cité de Dieu, nous avons besoin de la purification. Nous devons également être éduqués et reconstitués. Ce sont des éléments essentiels. Et la nuit dernière, nous avons vu quelque chose de plus capital encore. Non seulement nous devons rebâtir la maison, et c'est ce que nous avons vu beaucoup plus avec Esdras, mais Il y avait aussi Zorobabel qui a pris les devants pour retourner reconstruire la maison de Dieu. Mais la maison elle-même se trouve dans un contexte d'une ville. Le temple de la ville était environné des personnes, du peuple de Dieu. Et cette ville avait une muraille. Nous l'avons vu, cette muraille sert de protection afin d'éloigner l'ennemi. Quand je lisais Néhémie, permettez-moi de finir mon propos d'abord. Donc, il devait reconstruire la muraille pour servir de séparation et de protection également. Et également quelque chose de nouveau pour l'expression. Je lisais Néhémie la nuit dernière. Une fois que cette muraille a été construite, plus tard dans le livre de Néhémie, Néhémie était une personne qui avait pris les devants pour construire cette muraille. Et quelque chose de fascinant est que Néhémie a fait beaucoup de choses en plus de bâtir cette muraille. Lorsque vous lisez la dernière partie du livre de Néhémie, vous vous en rendez compte. Et l'une des choses qu'il a fait est qu'il a sanctifié le sabbat. Vous savez, le sabbat c'était un jour saint pour Dieu. Et les marchands syriens de Tyr qui environnaient le peuple d'Israël, ils amenaient leurs marchandises jusque dans l'enceinte du temple, dans la ville, à l'intérieur même des murailles, même le jour du sabbat. Et Néhémie a dit, oh non, cela doit s'arrêter. Les portes de la muraille doivent être fermées. Alors ce mur a permis qu'il soit séparé et qu'il garde à l'extérieur le trafic inutile. J'espère que vous apprendrez tous à fermer vos murailles pour vous être préservé de trafic nuisible de ce monde afin d'empêcher aux Tyriens d'entrer pendant vos moments saints, vos moments sacrés. Parce que ces Tyriens aiment tellement venir chaque fois pendant vos moments sacrés. Et le téléphone, c'est quoi? C'est un diable qui vient de Tyr. Et vient très souvent. Et vous devez apprendre à fermer la porte. Former votre muraille. Vous dites non. C'est le moment de Dieu maintenant. Ce n'est pas le moment des notifications. Ce n'est pas le moment des tests. Ce n'est pas le moment des appels. À moins que vous soyez en train d'appeler au Seigneur Jésus. Ah oui, à ce moment-là, tout va bien. Vous pouvez ouvrir la porte de votre cœur. Vous devez apprendre à fermer les portes aux mauvaises choses qui arrivent au mauvais moment. Mais nous avons plutôt l'habitude de faire les mauvaises choses tout le temps. Apprenez à utiliser ces portes et maintenez cette muraille. Mais nous ne parlons pas de la muraille ce matin. De toute façon, nous devons avancer et j'aime ce plan. Nous sommes au message 6. Et le frère nous a parlé du titre déjà, avoir une valeur dispensationnelle pour Dieu. Seigneur Jésus, c'est un grand thème, n'est-ce pas? Valeur dispensationnelle, mon Dieu. Vous êtes, Sébastien, tu as déjà fini à l'université, n'est-ce pas?
Tu n'as jamais effectué un cours sur ce thème. La valeur dispensationnelle, n'est-ce pas?
Essayons de disséquer ce titre. Nous pouvons faire cela de cette manière. Vous savez, la Bible est un livre merveilleux, très merveilleux. C'est un livre plein de révélations. C'est un livre qui présente des révélations. Et cette révélation dans la Bible est progressive. Et elle a même une direction. Cette avance de Dieu, l'histoire de Dieu, la révélation de Dieu qui se trouve dans la Bible commence à Genèse et se parachève dans Apocalypse. Et cette révélation avance de manière très progressive et suit une direction. Elle avance dans une certaine direction. Vous savez, si vous prenez une voiture pour partir de Denton pour aller à Chicago, vous allez suivre une direction, n'est-ce pas? Certainement, vous allez aller du nord vers le nord-est. Vous n'allez pas aller vers le sud-ouest. Ce serait la mauvaise direction. Alors la Bible, elle a une direction et elle a même des étapes. Elle a une avance, des avances. Les experts utilisent donc ce terme dispensation ou bien le terme âge en référence à cela. Dans Genèse, nous avons l'âge des patriarches, l'âge de la loi de Moïse, avec Moïse. Ensuite, on a beaucoup de choses qui se produisent par la suite. L'âge des juges, qui est l'âge sombre. Nous avons également l'âge des rois, avec le roi David, le roi approprié. Ensuite, Salomon, dont nous avons parlé. L'âge d'or, c'est l'âge d'or. Ensuite, en continuant, nous pouvons parcourir la Bible de cette façon, avec cette progression qui se parachève dans un édifice merveilleux appelé la Nouvelle Jérusalem. Mais cette carte qui mène à la Nouvelle Jérusalem comprend beaucoup de panneaux de signalisation, beaucoup de bornes kilométriques, beaucoup de carrefours, beaucoup de virages. Et savez-vous ce qui se trouve à ce niveau, à chacun de ces points, chacun de ces virages, à chacune de ces bornes kilométriques? Savez-vous ce qu'il y a à ce niveau? Il y a un homme. Un homme. Les hommes, les femmes. Il y a toutes sortes de catégories de personnes précieuses dont Dieu se sert. Et on les désigne par ce terme, ceux qui permettent de passer à un âge suivant. Lorsque le Seigneur veut faire un pas dans son avance divine vers la Nouvelle Jérusalem, il a besoin d'un homme. J'aimerais vous lire ce verset dans Ézéchiel. Oui, excusez-moi frère. Ce verset n'est pas sur la diapositive. J'aimerais quand même le lire. Il s'agit d'Ézéchiel 22, 30. Et c'est Dieu qui parle. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Je ne sais pas si vous comprenez, vous avez déjà compris cela. Avez-vous eu cette pensée? Dieu a un besoin. Dieu a un dessein. Il veut avancer pour accomplir son dessein jusqu'à ce que cela se parachève. Mais il ne le fait pas seul. Il a Adam, Abel, Enoch, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Je viens de parcourir Genèse en citant simplement ces noms, 50 chapitres. Mais ces 50 chapitres sont définis par 8 grands hommes qui sont comme des panneaux de signalisation. Et ils ont servi, ils ont eu une valeur dispensationnelle pour Dieu. Dieu ne pouvait pas avancer de l'âge d'Adam vers l'âge d'Enoch sans Enoch. Il ne pouvait pas passer d'Enoch à Noé jusqu'à Abraham sans Noé. Il fallait ces hommes, ces femmes ayant une valeur dispensationnelle. La valeur est quelque chose de relatif. Vous savez, il y a certaines choses qui ne m'intéressent pas du tout, mais pour lesquelles certaines personnes dépensent beaucoup d'argent. Daniel, où es-tu? Daniel, c'est celui qui s'occupe de l'audiovisuel ici à Denton. Personnellement, je m'efforce d'utiliser les mots tels que processeur. J'ai mon téléphone que je peux utiliser. Mais tout ce qui a trait à tout ce qui touche à l'aspect technique, j'appelle Daniel. Je lui envoie des textes, des messages. Nous travaillons ensemble dans l'équipe. Nous servons ensemble à plein temps. Alors, je parle toujours à Daniel parce que j'ai besoin de son aide. Il a il possède beaucoup d'objets, entre guillemets, sans valeur pour moi. D'équipements électriques, informatiques. Et nous venons même de lui offrir toute une salle qu'il a remplie en 2 semaines. Et il en a plus. Son épouse m'a dit qu'il y a plus encore à la maison.
Et toutes ces choses sont pour moi comme des ancres de bateau. Je ne sais pas quoi en faire. Mais Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont une valeur dispensationnelle, qui lui sont utiles, qui sont des éléments clés pour lui, qui sont uniques afin que le Seigneur puisse avancer et dans sa révélation progressive jusqu'à son parachèvement ou pour l'accomplissement de son économie éternelle. Il veut accomplir cela à travers ces personnes. Voilà comment nous voyons cela aujourd'hui. Nous voyons donc Néhémie comme une personne que le Seigneur peut utiliser. Frère, vous pouvez passer la première diapositive. Nous avons des versets que nous avons utilisés pendant la formation. Isaïe 66, j'aimerais davantage me focaliser particulièrement sur une seule expression. Ce verset est un cri de Jéhovah. Au dernier chapitre d'Esaïe 66, versets 1 et 2, Jéhovah lance ce cri. Et c'est un cri qui traverse plusieurs âges. Vous voulez écouter la voix de Jéhovah? Ce qu'il vous dit? Alors lisez Esaïe 66, versets 1 et 2. N'essayez pas d'imaginer sa voix. Il a déjà parlé. Lisez tout simplement la Bible et lisez cet extrait dans Esaïe 66. Ainsi parle Jéhovah, le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Dieu pose des questions. C'est quelque chose d'énorme. Ou quelle maison? Quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit Jéhovah. J'aimerais mettre l'accent sur la suite, ce qui vient par la suite. Mais voici celui à qui, voici sur qui je porterai mes regards. Il y a un type de personne. Vous savez, les cieux sont comme le centre administrateur du Seigneur. C'est son trône, c'est son bureau. Il règne depuis les cieux, même de manière cachée. Et la terre est son marchepied. Mais où est la maison? Où est la demeure réelle du repos de Dieu? Est-ce Jéhovah qui va construire cette maison? Ce verset dit-il cela? Non. Le Seigneur dit, et c'est quelque chose d'important, voici ce qui parle de ce type de personne. Le Seigneur recherche un certain type de personne, pas simplement n'importe quel type de personne. En parcourant la Bible, vous pouvez aussi le faire de manière négative. Il y a Caïn, Nimrod, Corée, et beaucoup de personnes qui se sont rebellées. Mais le Seigneur, nous devons lui dire, je veux être quelqu'un qui a une valeur dispensationnelle. Je veux être le type de personne que le Seigneur peut utiliser. Il ne peut pas se servir de n'importe quel type de personne. Quel type de personne? Le verset dit, celui qui est pauvre, qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui craint ma parole. Wow! C'est quel type de personne donc? Celui qui est pauvre. Pas nécessairement dans le sens matériel, bien que cela peut être inclus, mais celui-là qui est pauvre dans son être intérieur, qui a assoiffé, qui souffre. Chaque fois que j'invite les frères chez moi, je leur dis, frère, venez affamés, venez affamés. Et j'ai deux sens à ce mot, affamé. Lorsque vous venez, mon épouse va vous préparer un merveilleux repas, mais vous devez également venir avec un cœur affamé, un esprit affamé. Voilà le type de personne que Dieu peut utiliser. Néhémie était ce type de personne. Il est en fait un modèle de ce qu'une telle personne devrait être. Un modèle, C'est notre mot-clé que nous devons retenir dans ce plan et nous allons parcourir ce plan pour que vous compreniez davantage cette question d'être un modèle. Un modèle est un exemple vivant. Vous savez, les enfants apprennent la langue à parler beaucoup plus en imitant. Frère, j'ai appris que tu viens d'avoir un enfant, n'est-ce pas? Un nouveau-né. Il s'appelle Israël. Waouh, quel nom! Alors, quelle langue penses-tu qu'Israël va apprendre en grandissant? C'est l'anglais, n'est-ce pas? Pas le chinois? Oh, mais, et le coréen? Le coréen, c'est une bonne langue, n'est-ce pas? Non? Ok. Cet enfant va grandir en apprenant la langue qu'il entend parler autour de lui. Et il va apprendre cela en imitant. L'un des meilleurs moyens pour grandir, savez-vous quel c'est? Le meilleur moyen de grandir, l'un des meilleurs moyens de grandir dans notre vie chrétienne, n'avancez pas en cavalier solitaire. N'allez pas seul sur la montagne. Vous pouvez passer quelque temps sur la colline dans la Bible, mais je n'ai pas envie de nommer des gens, mais je peux en fait citer beaucoup de noms, des personnes qui ont été des modèles, des soutiens merveilleux pour moi, des gens à travers qui j'ai reçu beaucoup d'aide. J'ai beaucoup reçu à travers les frères avec qui j'ai été des saints. Ils ont été des modèles, pas beaucoup plus, pas surtout en parlant, en m'enseignant, ou bien en employant des méthodes pour telle chose, pour faire telle chose ou telle chose, mais parce que eux-mêmes, ils étaient dans leur personne. Je ne peux malheureusement pas citer des noms, sinon je vous aurais donné des noms depuis mon existence quand je n'avais que 20 ans, et puis quand j'avais 30 ans avec qui j'ai été, quand j'avais 40 ans, je peux vous dire avec qui j'étais. Mais je n'irai pas au-delà de 40 ans. Je me sens comme un homme de 35 ans. Mais le calendrier me dit que j'ai plus. Alors, dans ces nombreux modèles que j'ai eu devant moi, certains étaient plus âgés que moi. Certains étaient du même âge que moi. Et j'aimerais dire qu'il y en avait même qui étaient plus jeunes que moi. Et j'ai appris beaucoup, j'ai reçu beaucoup d'aide de ces personnes qui étaient même plus jeunes que moi. C'était des modèles. Et c'est un mot du Nouveau Testament, ce mot modèle. Mais il y a quelques versets merveilleux, je n'ai pas le temps. Quelques versets merveilleux. Paul dit par exemple que les anciens sont des modèles pour les croyants. Et il demande à son jeune co-ouvrier, Timothée, de l'imiter. Et il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Donc même quand vous êtes jeune, vous pouvez être un modèle. En parole, dans la conduite, dans l'amour, dans la foi et dans beaucoup d'autres aspects. Vous pouvez être un exemple vivant. Un exemple vivant. Pas beaucoup plus, pas nécessairement dans votre enseignement, mais par ce que vous êtes. C'est ça. Le modèle, et c'est cela Néhémie. Nous voulons considérer ce plan maintenant. C'est le premier chapitre de Néhémie. Le grand 1 dit, après qu'Israël eut été amené en captivité pendant 70 ans, Dieu avait toujours une avance dispensationnelle grâce à Néhémie. Il lui fallait quelqu'un. Il lui fallait construire la maison et la muraille. C'était un tournant dispensationnel et il a pu faire cela grâce à Néhémie. Néhémie avait une valeur dispensationnelle. Il était un vrai vainqueur. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui vainc, qui triomphe. Néhémie a vaincu beaucoup de choses. Il était modèle de quelqu'un qui a une valeur dispensationnelle pour Dieu. Grand 2, comme je l'ai dit, j'aimerais un peu avancer rapidement. Nous pouvons encercler quelques éléments clés dans Néhémie 1 et 2 afin que vous puissiez comprendre la question du modèle. Je ne voudrais pas vous raconter simplement, mais je vais vous montrer ce que c'est qu'un modèle. Le modèle montre la voie à suivre. Lisez Néhémie si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous verrez que vraiment Néhémie est un modèle. Même la manière dont ce livre est composé, c'est comme une histoire, mais c'est beaucoup plus dans le sens de biographie, de la biographie de Néhémie. Le grand Dieu Néhémie montre combien il est nécessaire que nous soyons animés d'une pugnacité adéquate aujourd'hui, une combativité. Un autre mot clé, c'est ça, cette agressivité, cette combativité adéquate. Nous devons noter également cela et j'aimerais définir cela. En fait, vous le comprendrez mieux pendant que nous le lirons. C'est un terme fascinant, n'est-ce pas? Agressivité, combativité appropriée. La combativité, c'est quoi? C'est quelque chose qui vient d'une autre volonté. Nous prenons une décision, nous sommes déterminés dans notre choix, comme cela a été le cas de Néhémie. Il a écouté le rapport et il a pris une décision et il l'a accompli. Et il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Mais c'est une agressivité, une combativité appropriée. Lorsque vous lisez l'histoire, vous comprenez mieux. Il y a ce qu'on peut appeler une combativité mal placée. Vous pouvez être combatif pour avoir une réputation ou un nom, une position. Vous pouvez chercher à laisser votre nom comme héritage dans les archives. Vous êtes agressif, vous êtes combatif, mais ce n'est pas approprié. Néhémie, il était agressif, mais il était complètement dépourvu d'éléments du moi. Il avait une combativité appropriée. Et j'aimerais vous dire, certains peuvent être appropriés, mais vous n'êtes pas non plus combatif. Vous êtes passif, approprié, mais passif. Nous disons que lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons utiliser les mots lorsque c'est nécessaire. Parfois, il faut être combatif pour utiliser ces mots. Ces paroles, pardon. J'ai suivi l'histoire de ces deux frères qui vivaient dans une maison. Ils ont vécu pendant quelques années. Des frères très chers qui aimaient vraiment le Seigneur. Et ils avaient un témoignage de Dieu auprès de leurs voisins. Et puis, il est advenu que ces frères déménagent. Et d'autres croyants qui les connaissaient sont venus vivre dans leur maison. Et donc, le voisin d'à côté qui parlait, qui s'entretenait avec les nouveaux occupants de la maison, leur a dit, il dit, « Oh, j'ai vraiment aimé, j'appréciais beaucoup ces gens qui habitaient ici. Ce sont de vrais moments. » Ah, les frères ont été beaucoup étonnés. « Oh, mais je ne suis pas mormon, je suis un chrétien. Pourquoi est-ce que les voisins n'ont pas su que les anciens... frères étaient des chrétiens parce qu'ils étaient tout simplement silencieux. Ils étaient des personnes appropriées, mais ils étaient très silencieux. Ils n'étaient pas combatifs. Nous devons parler pour le Seigneur. Je me rappelle de quelqu'un. C'est très souvent une situation qui arrive. Il a dit, es-tu un baptiste? Il a dit, non, je suis un chrétien. Et il dit, ah, ok, tu appartiens à la dénomination First Christian? Il a dit, non, 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 non. Je suis d'abord un croyant, mais je suis uniquement un croyant. Point final. De toute façon, nous voulons être agressifs, combatifs de manière appropriée. Alors, nous devons être hardis, comme Néhémie. Oh, Seigneur Jésus. Les chefs moabites, c'est le 2A. Et les Ammonites étaient très mécontents du fait que Néhémie recherchait le bien des enfants d'Israël. Nous allons voir cette histoire. Vis-à-vis des moqueries, du mépris et des reproches de ses opposants, Néhémie se montra très pur et très combatif. En ces clés, ce mot pur et ce mot combatif. Dieu sait maintenant, Ceux qui sont combatifs reçoivent l'aide de Dieu, comme Néhémie, l'apôtre Paul s'allia avec Dieu et souligner également Salia, et réalisa que Dieu l'assistait dans cette alliance. Grand 2D, la combativité de Néhémie s'accompagnait d'autres caractéristiques. Nous allons encercler quelques-unes de ces caractéristiques, quelques-unes. 1. Dans sa relation avec Dieu, il était un homme qui aimait Dieu. Et qui il aimait Dieu, encercler cela, aimait Dieu. Et encercler également, aimait aussi les intérêts de Dieu. Encercler cela sur la terre, y compris la terre sainte représentant Christ, le temple saint représentant l'Église et la ville sainte représentant le royaume de Dieu. 2. Étant une personne qui aimait Dieu, Néhémie priait Dieu afin de le contacter. Encercler ce mot, prier Dieu, afin de le contacter donc au moyen de la communion. Pour la reconstruction de la muraille, Néhémie s'appuyait sur la parole de Dieu. Encercler cela. S'appuyer sur la parole de Dieu et prier selon elle. 3. Néhémie faisait confiance à Dieu. En secret cela, faisait confiance à Dieu et ne faisait qu'un avec Dieu. En secret également cela. Ce sont les caractéristiques de Néhémie, d'une telle personne. Il devint ainsi le représentant de Dieu. D4. Dans sa relation avec le peuple. Remarquez cela dans le D4. Et à cette relation, nous devons avoir une relation avec Dieu. Pour cela, nous devons lui faire confiance, être un avec lui. Être allié avec Dieu et compter sur lui. Et nous devons également avoir la relation avec le peuple. Néhémie, dans sa relation avec le peuple, Néhémie était désintéressé. Soulignez cela en cercle. Il ne recherchait rien pour lui-même. Ni pour son propre intérêt. Soulignez également ces deux aspects. Ces défauts sont des écureuils rongeurs, des scorpions qui nous mordent et nous détruisent. Il était toujours prêt à sacrifier ce qu'il avait, en secret cela, sacrifier pour ce qu'il avait pour le peuple et pour la nation. Si vous consultez ces références que je n'ai pas lues, vous allez voir que ces caractéristiques se parcourent Néhémie 1 jusqu'à 5. J'aimerais lire l'histoire un peu pour que vous puissiez voir ces caractéristiques d'un modèle vivant, un exemple vivant. Amen, Seigneur. Ok. Parole de Néhémie. J'aimerais lire survoler simplement l'histoire. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, c'est Néhémie qui parle. Il dit que l'un de ses frères et quelques hommes sont arrivés de Juda. Et Néhémie les a questionnés au sujet des Juifs, des réchappés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Alors, Néhémie ici s'inquiète au sujet de ceux-là qui sont revenus de Jérusalem. Comment est-ce qu'ils vont? Quelle est leur situation? Et il me répondit, verset 3, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur. » Voilà la situation des réchappés qui étaient retenus de la captivité. Et ils sont au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voyez, Néhémie a eu ce fardeau pour la muraille. Cela est venu de ce rapport qu'on lui a fait. Lorsque j'ai entendu ces choses, c'est étonnant. Néhémie n'est pas rentré chez lui pour dire, oh, wow, j'ai autre chose à faire. Tant pis pour eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, lorsque j'ai entendu ces choses, Néhémie s'assit et pleura. Et il fut des jours dans la désolation. Il dit, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Oh Seigneur Jésus. À partir de ce moment, Néhémie a eu un fardeau. À partir de ce moment, Néhémie, il a été soucieux. Il dit, mon peuple, Mes frères, ayez une prière. Oh Dieu des cieux, le grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et supplie Jéhovah et confesse les péchés d'Israël. Et dit, nous avons été corrompus envers toi. Et il se répand et il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Et l'homme dont il est question ici, c'était le roi de Perse. Vous savez, Israël était assujetti à l'empire babylonien qui est passé sous l'empire de Mède, et puis le pouvoir est passé finalement aux Perses. Et qui était Néhémie? Vous savez, Néhémie, Israël était un scribe sacerdotal. Zorobabel descendait de la famille royale de David. Et qui était Néhémie? Qui était Néhémie? Quelqu'un le sait-il? Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Vous devez lire la Bible juste pour glaner les faits. Ne cherchez pas à interpréter, pas encore, mais cherchez à retenir les faits. Eh bien, dans Néhémie 1:11, il nous a dit que j'étais alors chanson du roi. Oui. Il était un échanson. C'est pas un travail merveilleux, n'est-ce pas? Il n'est pas le roi, mais c'est un bon travail quand même qu'il effectuait. Jacob, est-ce que tu désires être roi? Tu veux être quelqu'un qui lui apporte son vin, son échanson? Ou tu veux être le roi? Néhémie était un serviteur. Il était un homme commun, un homme ordinaire. Il n'avait pas une lignée importante, pas un grand nom. Juste un échanson. Mais Dieu peut-il se sauver des gens ordinaires? Amen. Cela doit être le cas, n'est-ce pas? Autrement, nous devons tous rentrer à la maison. Parce que pour la plupart, nous sommes des gens ordinaires ici, n'est-ce pas? Je suis parmi les gens les plus ordinaires, n'est-ce pas? Je suis très ordinaire. Mais alléluia! Nous pouvons toujours avoir une valeur dispensationnelle devant Dieu. Des gens ordinaires. Des échansons. Mon oncle m'a dit, il vit dans une banlieue nord de Chicago. Il m'a dit, lorsque j'étais jeune, Tom, il y a deux catégories de personnes qui vivent dans cette grande ville située au berge du lac Michigan. Il y a deux types de personnes, les riches et ceux qui servent les riches. Notre famille appartient à la catégorie, à la deuxième catégorie. Je suis, mon nom vient de la lignée d'un boucher. Thomas, oui, il était boucher. Donc nous sommes des serviteurs. Mais écoutez ce que ce serviteur a dit. Ok, chapitre 2. Ok, Néhémie 2. Au mois des Nisans, la 20e année du roi d'Artaxerxès. Comme le vin était devant lui, Néhémie prit le vin et l'offrit au roi. Et Néhémie a dit, je n'avais jamais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Et Néhémie dit, je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Et il demande au roi, comment n'aurais-je pas un mauvais visage? Lorsque la ville où le sépulcre de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Est-ce que vous voyez comment Néhémie se conduit? Par son exemple, nous voyons combien il est pur, n'est-ce pas? Néhémie n'avait jamais été triste. Mais il a suivi un rapport et ça l'a touché.
Et cela a affecté tout son être, au point que même le roi l'a remarqué. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que tu n'es pas un homme triste. C'est une tristesse de cœur. Néhémie était pur, si authentique. Il se souciait beaucoup du peuple de Dieu. Et j'aime cette phrase. Le lieu où repose le sépulcre de mes pères, il se souciait même de ses ancêtres, tous ceux qui étaient partis avant lui, dans sa lignée, la lignée du peuple de Dieu. Comment ne pas être triste? Et voilà où on voit sa pugnacité. Et le roi lui répondit, « Que demandes-tu? » Et Néhémie dit, regardons ici combien Néhémie est lié à Dieu, il est fidèle envers Dieu. Et il dit, « J'ai prié le Dieu des cieux. » Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire au roi? Le roi me demande ce que je veux. Quelle est ta requête? Et Néhémie se tourna vers Dieu dans la prière. Il amena cela à Dieu dans la prière, comme le dit le cantique. Vous avez un problème? Vous avez une difficulté? Vous avez un challenge, un défi, un souci? De l'anxiété? N'est-ce pas? Ce sont les choses de la vie. Oui, ce sont les choses que nous recevons dans la vie. Amenez cela à Dieu dans la prière. Oh Seigneur Jésus. Et Néhémie répondit au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Wow. N'est-ce pas la combativité? Il s'adresse au roi. Il dit au roi ce qu'il faut faire. Qui est le vrai roi ici? Dans un sens très réel, c'est Néhémie. C'était lui le véritable roi. Le roi n'est pas simplement celui qui a la position, mais c'est celui qui est roi peut l'être dans toute forme de situation. Vous pouvez être un simple technicien de surface qui porte les ordures, mais la manière dont vous faites votre travail fait de vous un roi. La manière dont vous vous comportez devant Dieu, en Dieu, en vous confiant en Dieu, en aimant Dieu, cela fait de vous un roi qui porte les ordures, qui sort les ordures. Néhémie était un roi et il disait au roi ce qu'il faut faire. Envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Wow, quelle agressivité, quelle combativité appropriée. J'espère que vous voyez tout cela. Nous avons été envoyés au campus. Vous avez été envoyés dans le campus. Et vous allez là-bas. C'est un lieu dévasté. Regardez autour de vous. Regardez autour. C'est dévasté. Dites au Seigneur, vous n'avez même pas besoin de demander. Néhémie n'a pas attendu que Dieu lui parle pour dire, oh, va reconstruire la muraille. Non. Néhémie a pris le devant. Il s'est rendu volontaire, il a dit au roi, envoie-moi. Vous devez dire, oh, et j'espère que vous le direz tous, étudiants, dites, Seigneur, envoie-moi dans mon campus. Ne me fais pas aller là-bas simplement pour l'éducation. Je ne veux pas sortir de là après 5 ans seulement avec un diplôme. Non, Seigneur, je veux me reproduire ici, dans ce lieu. Je veux amener les autres avec moi, afin que nous avancions tous ensemble avec toi dans cette dispensation. Afin que tout soit des instruments dispensationnels. Et Néhémie est très, très, très pratique. C'est merveilleux. Ensuite, il dit, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Il devait quitter d'une nation, traverser notre territoire pour arriver en Juda. Le peuple de Dieu à Jérusalem. Alors il devait passer dans le territoire ennemi. Et il dit, oh, c'est le roi, j'ai besoin de lettres. Je suis un homme ordinaire. Ils vont m'attaquer. J'ai besoin de lettres de ta part. Ce qui me permet de traverser leur territoire. Et non seulement cela, Et ensuite, il dit, j'ai besoin d'une autre lettre pour les gardes forestiers, afin qu'ils me fournissent du bois de charpente, pour faire les charpentes pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Vous savez, Néhémie était très pratique. Vous servez le Seigneur, vous prêchez l'évangile, j'ai besoin de telles choses, j'ai besoin de beaucoup de choses. Vous savez ce qu'il vous faut? Il vous faut les traités évangéliques dans votre sac. Parfois, vous devez parler aux gens et il est plus facile aussi de leur donner quelque chose. Vous pouvez retrouver en salle d'études, c'est plus facile. À ce moment-là, vous devez prier, Seigneur, donne-moi un moyen afin que je puisse parler de toi avant la fin de cette session d'études. Néhémie est très pratique. Nous avons besoin de construire ces murailles, alors j'ai besoin du bois. Oh, Seigneur, roi, j'ai besoin également de lettres pour les gardes forestiers, afin que je puisse obtenir du bois pour reconstruire la muraille, les portes. C'est merveilleux. J'aime Néhémie. J'ai vu en lui un nouvel héros dans la Bible. C'est un modèle. Et le roi me donna ces choses, ces lettres. Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Oh Seigneur Jésus. Et j'ai déjà dépassé le temps, mais je n'ai pas encore fini avec Néhémie ni avec le plan. Oh Seigneur Jésus. Mais ça, c'est l'histoire de la Bible, n'est-ce pas? Il y a toujours plus à gagner, à recevoir et à expérimenter. Seigneur Jésus. J'aimerais lire ce verset. Seigneur Jésus, Néhémie, dans Néhémie 2. Il se rendit auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et leur remit les lettres du roi. Et il dit, le roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers, Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Ne vous dites pas que si vous voulez servir le Seigneur, vous allez avancer comme sur les roulettes. Non, ce ne sera pas le cas. On ne va pas vous dérouler le tapis rouge. Vous dites, waouh, vous servez le Seigneur, chapeau. Waouh. Nous n'avons pas du temps, mais je vous encourage, lisez Néhémie, rassemblez tous ces détails. Tous les faits, ils ont conçu la muraille avec la truelle et également l'épée. Ce Sanballat et sa petite équipe, à chaque pas, ils faisaient l'effort d'entraver le travail. Voilà tout ce que l'ennemi a fait. Il n'y a rien de positif à ajouter à ce que Dieu fait. Tout ce qu'il désire, c'est de stopper. Mais il faut qu'il passe par ces personnes qui ont une valeur dispensationnelle devant Dieu. Oh Seigneur Jésus. Alors Sébastien, j'espère que tu ne t'arrêteras jamais, mon frère. Que tu ne cesseras jamais de poursuivre. Ne t'inquiète pas. Si la famille te donne du temps difficile, si ton enseignant de mathématiques dit que tu perds ton temps, ils disent, que fais-tu? J'ai investi beaucoup de connaissances en toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu sais, Jéhovah, quelle perte. Quelle perte. Lorsque j'étais adolescent, mon papa m'a posé la question. Nous étions à la véranda arrière. C'était à ce moment-là où j'avais commencé à me rassembler avec les frères et les frères et sœurs. Et j'avais été sauvé par un proche. Et j'ai commencé à poursuivre le Seigneur. Mon père était un non-croyant. Et nous étions assis ensemble. Et l'un des soirs, il a dit, Tom, tu ne vas pas être un prédicateur, n'est-ce pas? En écoutant cela, tout mon être s'est effondré. Parce que j'ai su que je n'avais pas l'approbation de mon papa. Je n'avais pas son approbation. Tu ne seras pas. De toute façon, je n'avais pas cette idée. J'avais d'autres plans. Mais cela m'a rendu triste. Et je me suis rendu compte par la suite que j'ai un autre roi à qui je dois plaire.
J'ai un autre roi avec qui je suis redevable. Et je veux être une personne ayant une valeur dispensationnelle pour Dieu. Et j'aimerais clôturer avec le dernier grand point, le grand 3, qui parle de bon leadership de Judas. C'est quelque chose que Dieu désire. Il veut des bons leaders, des bons meneurs, comme nous voyons dans le modèle de Néhémie. Dans ce livre, j'aimerais le dire, Néhémie a fait cette prière à plusieurs reprises. Il a dit, rappelle-toi, ô mon Dieu, souviens-toi. Je vous donne quelques versets à ce sujet. Ces versets sont utiles. Il dit dans Néhémie 5:19, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Et au chapitre 13, verset 14, souviens-toi de moi, ô mon Dieu. À 4 reprises dans ce livre, Néhémie fait cette prière. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi à cause du bien que j'ai fait à ce peuple. Souviens-toi de moi à ce sujet, à tel sujet. N'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Je vous poserai la question, c'est un défi. Vous, les jeunes, à quel sujet Dieu se souviendra-t-il de vous? Pourquoi Dieu se souviendra-t-il de vous? Il ne s'agit pas de ce que les autres hommes retiendront de vous, comme par exemple ce que vous mettrez sur votre pierre tombale. Vous avez déjà pensé à cela? Moi, j'y ai pensé. Parce que si le Seigneur tarde, nous irons tous à la tombe, n'est-ce pas? Mais que voulez-vous? Pour quelle raison voulez-vous que Dieu se souvienne de vous? Moi, je veux qu'il se souvienne de moi au sujet du bien que j'ai fait pour l'édification de sa maison et pour son peuple. Nous ne parlons pas ici du salut. Le salut s'obtient par la grâce à travers la foi. Mais dans la vie chrétienne, il y a plus que le salut. Il y a plus que le salut. J'ai été sauvé quand j'avais 13 ans. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui viennent après cela. Le Seigneur a besoin des meneurs dignes de ce nom. Des gens appropriés qui sont combatifs dans le bon sens. Et puisse le Seigneur se souvenir de chacun de nous. Il est vrai que nous sommes tous des personnes ordinaires. Mais puisse-t-il se souvenir de nous pour le bien que nous avons fait pour l'édification de sa maison, de sa ville et de son peuple.